Ma sœur, mon frère, mon ami, toi qui es venu ce matin prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant, la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail, sois sans crainte. Le Seigneur est là, il t'appelle, il t'invite à écouter et à le recevoir ici et maintenant. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, en son Fils Jésus-Christ, notre frère. Amen. Alors, bonjour. Nous avons eu une défection du prédicateur qui devait venir présenter le culte aujourd'hui. Donc, nous avons pris un culte qui a été préparé par Nicole Delcroix. Et en fait, c'est un culte qu'avait préparé auparavant la pasteur Agnès Adeline Schaeffer, « Vivre la promesse d'un souffle ». Bienvenue donc pour ce temps de culte. Donc oui, nous allons lire à plusieurs voix, hein, en particulier la prédication que je partagerai avec David. Et puis il y aura Pierrick, Florence et Dominique qui nous aideront aussi pour certaines lectures. Nous avons Marie-Vonne à l'orgue, Florence et Dominique à l'accueil, et je ne sais pas qui est à la garderie, s'il y a la garderie. Non, pas de garderie. Bon, alors, donc, oui, les fleurs quand même, remercier pour les fleurs, Barbara et Daniel, hein, c'est ça, hein? Non, c'est qui est venu? Oui, c'est... Barbara et Daniel. Donc voilà. Donc bienvenue pour ce temps de culte, à vous qui êtes présents dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous sommes en communion les uns avec les autres, en particulier avec tous les pays, là où la paix est précaire et où le vivre ensemble et le dialogue sont menacés. Nous sommes en communion avec toutes les familles actuellement dans le deuil d'un proche. Nous lirons donc, nous chanterons les spontanés qui sont dans le recueil écrus en début de recueil. Nous aurons aussi à un moment donné une prédication que nous lirons à la fin du recueil. C'est une confession de foi, voilà. Pas la prédication, c'est pas vous qui la lirez. A priori, si vous voulez, on vous cède la place, hein, c'est pas un souci. Bon, c'est quand même mieux, voilà. Donc je vous demande de vous lever pour chanter le spontané « Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison ».
Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison, laisse-nous venir chez toi, laisse-nous Seigneur partager ta moisson, laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia, nos mots passant, alléluia.
C'est Pierrick qui nous guide dans la louange.
Louons Dieu, ô toi, l'au-delà de tout. De quel nom pouvons-nous t'invoquer? Tu dépasses tout nom. Quel cantique pourra chanter tes louanges? Quels mots pourront parler de toi? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé. Mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de ta création tout entière. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Et nous chantons le 84.
C'est page 98, tout au début des recueils.
Dans ta maison, je suis heureux.
Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin que de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Et nous restons assis pour chanter de tous mes maux.
De tous mes maux, il me guérit. Il parle et Amen.
levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Et c'est Florence.
Voici ce que nous dit l'Éternel. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas embrasée. Car je t'aime d'un amour éternel et je te consolerai comme une mère consolait son fils. En Christ l'Éternel notre Dieu s'épanche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. »
Et nous chantons le spontané.
Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien.
Voici ce Jésus qui nous propose de vivre selon le témoignage de Jean l'évangéliste. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et chantons « De ton esprit emplis nos êtres ». Nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Dieu notre Père, nous voici devant toi tels que nous sommes. Si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, ta parole prendra tout son sens. Notre marche s'orientera et notre chemin se précisera. Par ton esprit, ô Dieu notre Père, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à l'intelligence de ta parole. Permets que cette parole naisse en nous et soit pour nous une force qui fait vivre, le moteur de nos engagements, la source de nos inspirations. Amen. Et c'est Dominique qui nous conduit dans les lectures.
Nous lisons aujourd'hui le psaume 54. Ô Dieu, montre qui tu es en venant à mon secours. Montre ta force en me rendant justice. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute ce que je dis. Des étrangers se dressent contre moi. Des brutes veulent ma mort. Ces gens-là ne tiennent aucun compte de Dieu, mais Dieu va me venir en aide. Le Seigneur va me soutenir. Que le malheur retombe sur mes ennemis, montre-moi ta fidélité en les réduisant au silence. De bon cœur, je veux t'offrir un sacrifice. Je veux prononcer ton nom dans mes louanges, Seigneur, car tu es bon. Tu m'as délivré de toute détresse et je vois la défaite de mes adversaires.
Thank you.
La deuxième lecture est Jean 14, versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes uni à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui.
Nous nous levons pour chanter le spontané. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur rassemble les hommes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur n'en fait qu'un seul corps. Au jour de Pentecôte, enflammant les apôtres, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. Amis, frères et sœurs, nous sommes dans un entre-deux, entre l'ascension où Jésus a quitté les siens pour de bon, disparaissant dans le ciel, emporté dans une nuée, comme nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, et la Pentecôte, don officiel de l'Esprit-Saint et du souffle de Dieu sur les disciples. La vie du disciple d'hier, comme celui d'aujourd'hui, n'est pas simple. Elle se joue sur le mode du présent absent. Elle est faite de proximité-éloignement. Elle est paradoxale. Ainsi que l'écrit le pasteur Jean Dumas dans son dernier, dans un ouvrage, « Jean, explique-moi ton évangile ». Qu'est-ce qui va permettre à la communauté des disciples du temps de Jésus de rester soudée, vivre de la promesse d'un souffle? Dans l'extrait du livre des Actes, relatif au récit de l'Ascension, il est fait le rappel de la recommandation d'attendre la réalisation de la promesse du Père. C'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés. Avec cette insistance, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Avec ces extraits du livre des Actes, nous sommes dans l'écriture de l'évangéliste Luc, qui donne sa version des faits. La promesse du Père à laquelle il est fait allusion dans le récit des Actes renvoie à un autre récit, présent cette fois dans l'évangile de Jean, que nous venons d'entendre. Nous sommes à quelques heures de l'arrestation de Jésus. Il réunit ses disciples pour un ultime discours, prenant le temps de préparer ses disciples à son prochain départ, qui est ici sa mort, tout en parlant en même temps de continuité. Jésus s'adresse à son groupe de disciples, mais au moment où l'évangile de Jean est rédigé, c'est déjà aux disciples de tous les temps que ce récit est en train de s'adresser. La continuité promise aux petits groupes de disciples s'adresse alors aux récepteurs de cet évangile, aux disciples des générations futures, pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, comment comprendre et déchiffrer cette continuité? Quelle forme va-t-elle prendre? Dans les évangiles, Jésus parlant de son Père, parle de Dieu dont il est totalement imprégné. Il promet à ses disciples le don de l'Esprit. Le mot grec qui est employé, à savoir pneuma, se traduit par souffle. Dans ce passage de l'Évangile, chaque fois que le mot esprit est présent dans la traduction, c'est le mot souffle qui est écrit. Et le souffle, c'est déjà ce que nous trouvons au tout début du livre de la Genèse, quand nous lisons que le souffle ou l'Esprit de Dieu plane à la surface des eaux. Ce souffle de Dieu, c'est le moyen qui pénètre le cœur des premiers témoins du Premier Testament, des messagers comme des prophètes. Par exemple, nous pouvons lire dans le livre du prophète Ézéchiel cette promesse que Dieu a faite à son peuple. « Je leur donnerai un cœur loyal, je mettrai en vous un esprit neuf, autrement dit un souffle neuf, un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les accomplissent. » Il s'agit d'une promesse de la profusion du souffle de Dieu sur l'ensemble du peuple d'Israël. Puis, c'est le prophète Joël qui ira plus loin dans sa prophétie, puisqu'il annoncera la promesse de l'Esprit, du souffle de Dieu, à toute l'humanité. Et c'est tout au long de la première alliance que le peuple d'Israël va apprendre à vivre de la promesse d'un souffle. Ce souffle qui rappelle sans cesse cet élément indispensable à la vie de tout être vivant. Ce souffle inhalé dans les narines du premier être humain qui lui donne vie et le met en mouvement. Ce souffle qui est l'air indispensable que nous respirons, manifesté par le cri du nouveau-né que l'on attend parfois fébrilement à chaque naissance. Ce souffle dont on ne s'aperçoit pas qu'il est omniprésent à chaque seconde de notre vie, sauf quand il vient cruellement à manquer. On peut tout à fait bénéficier d'une santé excellente, mais si l'on est empêché de respirer d'une façon ou d'une autre, alors nous mourrons. C'est la même chose pour tout être vivant et pour tout être humain à travers le monde. Et la pandémie de la Covid nous l'a rappelé de façon déchirante, puisque ce virus attaque tout particulièrement les voies respiratoires. Mais c'est bien cette promesse du souffle que Jésus fait à ses disciples avant de mourir. Cette promesse de recevoir ce souffle comme une force vitale, en plus de leur propre respiration, deviendra une sorte de regain de vitalité inattendu, décuplant leur courage pour oser devenir les témoins de leur maître, à peine disparu à leurs yeux parce qu'élevé au ciel, et pour entreprendre le minutieux ministère d'annoncer la bonne nouvelle en restant fidèles à ce qu'ils auront appris de lui, tout en innovant et en actualisant le message qu'ils auront retenu.
Dans le passage de l'évangile de Jean, nous avons lu, l'esprit ou le souffle est mentionné par un terme différent, un terme particulier, le paraclet. Un terme qui est cher à cet évangéliste et qu'on ne retrouve d'ailleurs que chez lui, et que l'on traduit par consolateur, et que l'on peut comprendre aussi par une force consolatrice permettant aux disciples de faire un travail de deuil provoqué par l'absence de Jésus. Ou certains commentateurs préfèrent une autre traduction de ce terme, toujours pour le paraclet, en le prenant dans un autre registre, plus juridique, et on le traduit par avocat ou défenseur, ça dépend des traductions. Et alors, ça va représenter alors celui qui s'engage à nos côtés pour parler, intercéder en notre faveur. Peut-être par rapport à quelque chose qu'on aurait du mal à observer, comme par exemple la difficulté à mettre en pratique les commandements du Christ. Parce que selon ce passage de l'Évangile, Jésus dit « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Cet amour pour le Christ va se manifester dans l'écoute de sa parole, l'obéissance à ses commandements, la mise en pratique de son enseignement. Feuille de route classique, pour ne pas dire traditionnelle, pour toute personne qui désire suivre la volonté de Dieu, mais c'est loin d'être évident. C'est alors que le souffle intervient comme un don, celui d'être toujours en mouvement, non seulement physiquement, mais intellectuellement, dans la réflexion, la pensée, la raison. Le souffle, ce souffle de l'esprit, va aider chacun à ne pas rester à la surface des choses, mais à prendre des chemins insoupçonnés pour l'approfondissement de la parole. Et aussi, et c'est peut-être le plus important, ce même souffle aidera les croyants d'aujourd'hui à ne pas rester dans une littéralité du texte biblique afin de trouver les mots les plus justes, les images les plus justes permettant de faire de la Bible toujours une parole vivante et non pas un texte dépassé. Alors bien sûr, cela va amener nombreux d'entre eux, voire nous tous, sur des chemins inconnus de la discussion. Le souffle est alors une force intérieure qui dynamise, entraîne les gens à la suite les uns des autres, parfois dans des débats contradictoires, mais qui montre la richesse et la pluralité des opinions. La multiplicité des interprétations théologiques. Le souffle est là pour garder chacun dans un esprit d'ouverture, pour chercher à comprendre, sans juger, pour respecter la pluralité des lectures, sans jeter l'anathème, parce que tout le monde n'en est pas au même point, parce que personne n'a le même parcours de vie, ni les mêmes expériences de foi. Ce même souffle peut ouvrir les uns et les autres au dialogue avec des religions autres que le christianisme, mener les uns et les autres à dialoguer avec des personnes athées. Ce même souffle, oui, peut faire découvrir aux uns et aux autres la richesse du dialogue, le bonheur de comprendre et d'approfondir ses propres spécificités, apprendre à mieux se connaître et pourquoi pas, idéalement, aboutir à une fraternité réciproque. Nous sommes appelés à vivre de la promesse d'un souffle parfois ténu, mais qui dit tellement sur la présence, souvent surprenante, insoupçonnée de Dieu. Ce souffle se manifeste de façon très diverse. Dans notre vie quotidienne, vivre de la promesse de ce souffle commence par se laisser chambouler dans ses projets, pour accueillir une rencontre impromptue. C'est aussi prendre conscience de ne prendre aucune décision, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans nos vies d'église, sans questionner auparavant, dans la prière, le discernement que demande chaque situation. C'est aussi repérer comment est renouvelé ce qui était devenu habituel, comment est dérangé ce qui était ancré. C'est observer comment est relancé ce qui était stoppé. Vivre de la promesse de ce souffle, c'est encore, en toutes circonstances et contre toute attente, alors qu'on se sentait seul et impuissant, faire l'expérience de garder la foi, l'espérance, l'amour, l'espérance, la confiance. En particulier dans les situations difficiles, tragiques même, et s'apercevoir que cela ne vient pas de nous, mais que cela nous est donné. Ainsi que l'écrit le pasteur Jean Dumas, au commencement de l'Évangile, le baptiste voit le souffle descendre sur l'homme Jésus, le souffle. Et après avoir traversé la mort, ce même Jésus transmet à ses disciples le souffle reçu de son Père. Est-ce la fin de l'Évangile ? La finale du texte, certes, mais depuis, le souffle poursuit sa course et se mêle à la parole des hommes. L'homme qui s'essouffle à courir sa vie, qui peine et bute sur l'obstacle, a le souffle court, mais il reprend souffle à la parole de l'Évangile. Il se redresse comme né d'un nouveau souffle et sa course s'apaise jusqu'à parvenir au but, devenir un avec le Père par son Fils, devenu mon frère. Amen.
Levons-nous pour chanter le cantique 2208 à la page 264, les trois strophes. Restons debout pour confesser ensemble notre foi avec la confession numéro 6 à la fin du recueil. Jésus de Nazareth nous a révélé Dieu, le Seigneur tout amour. À sa suite, j'appelle Père celui qui est le Créateur du monde et le Sauveur de tout ce qui vit. Son Esprit nous rassemble aujourd'hui dans la louange, nous éclaire par l'Évangile, nous met en route dans le service de nos frères et nous conduit vers le royaume de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je crois.
Oui.
Mince. Si, on s'assoit. Oui, mais c'est le moment que j'adore. Hein. Donc, si la foi ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte, nous dit Jacques dans son épître. Parmi la multitude d'actes possibles que nous dicte notre foi, il y a l'offrande. Ce geste de simple gratitude pour tous les bienfaits que Dieu nous offre, c'est le moment de l'offrande. Que votre offrande soit généreuse comme votre Père est généreux. Père, accepte notre offrande comme toutes celles que nous inspire ton amour. Que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Amen. Alors, le moment des annonces, c'est un petit peu... Je vais essayer de m'en sortir. Alors, déjà, on va peut-être revenir sur le temps passé. Vendredi soir a eu lieu dans ce temple une très belle cérémonie sur le temps de la création. C'était une cérémonie œcuménique. Les participants ont vraiment apprécié le moment. Les travaux du presbytère, ils avancent bien. Enfin, on est content hein, de ce qui se passe. Donc Claude et Franck, et puis Jean aussi, qui sont présents, là, qui ont déjà fait beaucoup de travail. Et puis ce week-end, une équipe du conseil presbytéral, on a fait notre week-end habituel de début d'année. D'habitude, on va dans le chalet de Madame Schoenderfer, là, à la Clusa. Et là, on l'a passé au temple. Et bien, on a travaillé dans le presbytère. Voilà, on a détapissé, on a protégé les sols. Enfin, on a fait des choses. Voilà. Il y a encore énormément de travail. On a aussi mesuré l'étendue de ce qui reste à faire. C'est pas rien. Donc, s'il y a parmi vous des volontaires, je sais qu'il y en a, hein, j'en ai repéré, qui se sont déjà inscrits, mais s'il y en a d'autres, il y a un tableau dans l'entrée. Vous pouvez indiquer votre nom, votre numéro de téléphone, et puis Franck vous contactera. Pour la suite des travaux, il y a beaucoup de choses à faire. Hein, donc, des choses simples, hein, c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être très bricoleur. Hein, nous, on a pu faire des choses et encore plein de choses simples à faire, hein, sans forcément y passer beaucoup de. Enfin, si, il faut y passer du temps, mais avec beaucoup de bonne volonté, on y arrive bien. Alors, le culte du 17 octobre, je vais bien vous le rappeler, sera le culte d'offrande d'automne. Avec la présence de l'ancien pasteur d'Annecy, Gilles Pivot, et puis un repas tiré des sacs, parce qu'à cause de la pandémie, on ne peut pas partager les plats, donc c'est forcément chacun amène son propre repas. La chorale, mardi à 19h15, le groupe de prière, mercredi à 18h, et puis aussi, très 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 important, mardi à 14h30, ici même, au temple, les retrouvailles de la rentrée du CERA après une longue, très longue interruption. Donc, on se réjouit de vous accueillir. Je pense que toute l'équipe est fin prête. Hein, elle a eu le temps de se préparer. Voilà. Et on les remercie. Est-ce qu'il y a d'autres annonces?
Oui, madame. Je voulais vous dire un double merci. D'abord pour le choix du culte de d'Agnès Adeline Schaeffer, qui est une des deux pasteurs de l'Oratoire du Louvre à Paris. Moi, je la suis toutes les semaines, enfin, avec sa collègue, Béatrice Clairon-Mazir. C'est toujours très intéressant, elle l'a encore montré aujourd'hui, profondeur, ouverture. Et aussi parce qu'elle a cité deux fois quelqu'un qui est venu ici en décembre 2019, le pasteur Jean Dumas. Pasteur Jean Dumas, sa sœur, Annette Flandé, qui a beaucoup œuvré pour la paroisse, qui était présidente de la paroisse, et Jean Dumas, enfin Annette Flandé était la sœur de Jean Dumas, qui est un pasteur qui est à la retraite bien sûr, qui a écrit des livres extrêmement bien. Voilà,
merci Norbert, je ne savais pas. Donc, j'avais déjà fait les remerciements, mais je remercie encore mon épouse, Marie-Vonne, qui me supporte, entre autres, de jouer de l'orgue. Donc, il faut que je le fasse à chaque fois, sinon c'est dans le contrat. Donc, David va nous guider dans la prière d'intercession. Je pense qu'on se lève. Non, on reste assis.
Ô Dieu notre Père, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Et notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande qui ne soient pas que des gestes matériels, mais aussi des gestes d'amitié et des marques de tendresse. Nous t'en prions. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain. Car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à ceux qui se croient forts. Car toi seul, Seigneur, est notre force. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui demandent le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Car toi seul, Seigneur, es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, et donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te confions celles et ceux qui sont dans le deuil d'un proche, au près comme au loin, dans notre pays comme à l'étranger. Donne la lumière à ceux qui te cherchent. Et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Nous te prions pour celles et ceux qui sont sur le seuil. Que le levain de ton esprit fasse lever la pâte de notre vie avec notre modeste témoignage. Que ton souffle de vie éveille notre monde à l'espérance et à ta présence. Et puis nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction de la part du Seigneur avec un texte du pasteur Gérard Delteil.
Que jamais le bonheur de la vie n'éteigne en nous la révolte contre ce qui la défigure, mais que jamais non plus le scandale du mal n'efface en nous la louange de la vie, que jamais les mots qui nous font vivre, tendresse, plaisir, liberté, confiance,
ou ne se referment en des certitudes figées, mais qu'ils soient source d'une quête toujours inachevée, que notre foi ne soit jamais dans le doute, et que nos doutes ne soient jamais dans la confiance, que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutienne en nous la promesse et la passion d'un monde autre. Tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui nous met en route, que la petite espérance nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne sur des chemins inattendus et qu'elle chante en nous comme un défi l'amour de la vie.
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce, que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix.
Amen.
Et nous chantons le spontané.
Tu nous appelles à t'aimer. dans le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Toi es signe d'amour, de paix et de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle,
dimanche. Merci.